Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelle est la contribution de la diaspora congolaise dans la création des emplois en République démocratique du Congo? On en parle avec Monsieur Patrick Massoya, il est promoteur de Global Consulting Investment and Network. Et il est de la diaspora américaine des USA. Monsieur Patrick Massoya, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous avons également en ligne le professeur Amissi Eradi, directeur général du guichet unique des créations d'entreprises en RDC. Professeur Amissi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Paul Badianyam à la technique, Tati Mapoukou réalise cette émission que coordonne Marcel Ngomoumbalakeba, Jody Daniel Kachama au micro, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Bienvenue encore une fois dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. De plus en plus de Congolais de la diaspora se lancent dans l'entrepreneuriat en RDC. Ils investissent dans la restauration, l'informatique, l'environnement, les secteurs alimentaires. Et certains ont créé des structures qui permettent des échanges commerciaux entre la RDC et l'étranger. Pour bon nombre de gens, ce sont là des initiatives louables car cela constitue des opportunités d'emploi dans un pays où le taux de chômage est très élevé. Cependant, certains Congolais de la diaspora estiment que l'État congolais ne leur facilite pas la tâche pour mieux investir au pays. Patrick Massoya est de la diaspora américaine. Vous venez de Phoenix, Arizona. Vous venez de l'État d'Arizona. Vous êtes promoteur d'une entreprise dénommée Global Consulting Investment and Network. Alors, dites-nous, parlez-nous de ce projet. De quoi s'agit-il?
Oui, merci.
Ou de cet investissement?
Oui, l'entreprise Global Consulting and Investment est spécialisée dans l'investissement des immobiliers pour les Congolais tout d'abord qui sont ici et qui veulent investir en Arizona, pas seulement Arizona, mais dans les États-Unis d'Amérique avec le financement qui vient directement de nos partenaires fiables jusqu'à 80% pour l'État d'Arizona et jusqu'à 65% pour les États-Unis partout. Et en deuxième lieu, nous sommes dans la facilitation des affaires où nous sommes maintenant à la porte d'entrée de plusieurs bailleurs de fonds qui peut-être avaient l'intérêt d'investir ici au Congo, mais vu l'expérience du passé, avaient perdu cet appétit. Mais aujourd'hui, grâce à l'entreprise Global Consulting, ils ont une porte ouverte, ils savent où aller. Et nous sommes là, et sur ça, nous avons quelques projets en cours dans l'aviation, et nous sommes là dans la facilitation des études des élèves et étudiants aux États-Unis et Canada. Et enfin, nous sommes là aussi pour promouvoir l'accès direct à plusieurs entrepreneurs ici au Congo qui voudront acheter de véhicules blindés spécialisés aux États-Unis. Mais dans l'entretemps, nous sommes en train de travailler négocier avec une banque locale ici pour un accompagnement de financement pour les Congolais de la diaspora pour investir ici en RDC dans les immobiliers avec un financement qui viendra de nos partenaires et à l'accompagnement d'une banque locale ici, surtout pour renforcer les recouvrements de fonds. Donc ça sera un rapport entre deux États. L'entreprise globale a plusieurs fonctions.
Vous avez plusieurs activités. Alors, depuis combien de temps cette entreprise s'est installée ici en République démocratique du Congo?
Bon, ça fait presque un mois depuis que nous avions obtenu nos documents officiels, mais nous avions inauguré l'entreprise le 21 septembre, le lundi passé.
Est-ce que c'était facile? Racontez-nous comment est-ce que vous êtes arrivé à vous installer, à obtenir tous les documents, parce que beaucoup se plaignent toujours que ce n'est pas toujours facile quand on arrive au pays. Il y a trop de complications.
Oui, d'abord, en tant qu'un doyen de la diaspora, je dirais que on a quand même vu pas mal de changements ici au pays. Mais c'est vrai que toutes ces tracasseries et autres démarches pour l'obtention, l'ouverture d'un business ici au Congo n'était pas vraiment facile. Et nous avions connu, j'ai dû appeler quelques agents du guichet unique pour essayer un peu de voir comment faire. Et cette culture-là en RDC, qu'on a de motivation et autres existe toujours. Et je pense que nous, en tant que le membre de la diaspora, en tant que le futur poumon économique du pays, nous aimerions au moins voir un grand changement dans le processus, la facilitation de l'obtention des documents ici. Et en tant que Congolais d'origine, que nous soyons pris en compte dans ce cadre-là, ici, une fois ici, que le gouvernement établit un modèle pour nous assister rapidement comme on a vu dans d'autres pays. Et cela va nous encourager de revenir ici et investir nos moyens ici avec une assurance totale du gouvernement et surtout les guichets uniques qui doivent bien faire son travail et qui jusque-là n'évoluent pas à la vitesse normale. Donc voilà, il y a eu trop de...
Prend beaucoup de temps pour avoir les documents.
Voilà, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Ça prend beaucoup de temps. Dans les réels, c'était vraiment incroyable. On vous dit 3 jours, 1 semaine et les documents ne sont pas là. Il faut commencer à appeler les agents. Vous bougez un peu. Donc c'est un peu ça. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est vraiment important que la diaspora soit prise en compte. Et surtout... j'insiste à interpeller nos autorités ici, en particulier le chef de l'État lui-même qui avait lancé un appel à la diaspora congolaise de rentrer dans ce pays
pour investir.
Voilà. Jusque-là, on n'a pas vu un mécanisme du gouvernement qui accueille cette diaspora, qui rentre dans son pays avec cette motivation. Et jusque-là, j'attends toujours du chef de l'État de voir de réaliser ses promesses à la diaspora. Nous sommes là, nous voulons rentrer au pays, mais il faut que le pays, lancer un appel, c'est bon. Mais quels sont les mécanismes mis en place pour nous? C'est ça un peu les problématiques.
Bien, professeur Amis Hieradi, vous êtes directeur général du guichet unique des créations d'entreprises en RDC. Dites-nous quels sont les pour un Congolais de la diaspora qui veut revenir au pays investir, quelles sont les démarches à entreprendre auprès de votre organisation?
Oui, merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat que je considère comme étant citoyen. Et là, je remercie d'abord notre compatriote de tout à l'heure pour les activités qu'il est en train d'entreprendre, lesquelles activités visent non seulement à développer pour lui-même, n'est-ce pas, des activités économiques dans notre pays, mais également à attirer d'autres investisseurs, d'autres Congolais de la diaspora à revenir au pays, puisque je considère que avec l'avènement du président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Je disais donc avec son avènement, je pense que c'est une nouvelle ère, n'est-ce pas, qui souffle dans notre pays. Et donc, tous les Congolais, d'où qu'ils soient, doivent capitaliser pour justement investir, puisque l'investissement, c'est l'assurance des assurances. Alors, je l'ai entendu dire tout à l'heure que les guichets uniques des créations d'entreprise n'évoluent pas, ce sont ces mots, à la vitesse que tout le monde attend. Mais laissez-moi d'abord vous dire, effectivement, comme vous l'avez reconnu, chers compatriotes, que les autorités de notre pays dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, justement, ont mis en place des mécanismes pour faciliter justement le développement des investissements dans notre pays. Lesquels les investissements peuvent provenir aussi bien des nationaux que des étrangers. Donc il y a un mécanisme, il y a un cadre qui est mis en place déjà. Évidemment, tout ne peut pas être parfait. Alors, l'un des mécanismes, c'est le guichet unique de création d'entreprise qui, comme vous le savez, facilite justement le processus de création d'entreprise dans notre pays. Il facilite le processus en ce que, contrairement à la situation antérieure, où pour obtenir tous les documents exigés par notre législation pour créer son entreprise, il fallait entreprendre diverses et multiples, n'est-ce pas, démarches auprès de diverses administrations. Avec le guichet unique des casseurs d'entreprise, tout le monde le sait, il suffit de s'adresser à un et à un seul service de l'État pour obtenir, n'est-ce pas, très rapidement, dans de bonnes conditions, et je dis bien dans de bonnes conditions, de célérité mais également de transparence, tous les documents exigés pour que votre entreprise soit régulièrement constituée. On connaît les coûts. Lorsqu'il s'agit d'une société, quelle qu'en soit la taille, c'est l'équivalent franc-congolais de $80. Vous avez tous les documents, je dis bien tous les documents de création. Et lorsqu'il s'agit d'un établissement, personne physique, c'est l'équivalent franc-congolais de $30. Voilà. Maintenant, notre compatriote a posé une problématique. Ça n'a pas été facile.
Professeur Amissi,
il a pas dit la motivation.
Voilà,
j'essaie de vous répondre, puisque c'est quand même assez important.
Allez-y.
Je suis en train de répondre en disant ceci. Le mécanisme du guichet unique de création d'entreprise, il fonctionne tel qu'il a été mis en place. Mais il faut ici noter que beaucoup de gens, et surtout peut-être nos compatriotes de la diaspora qui ne savent pas comment les choses se passent, qui ont toujours, n'est-ce pas, cette idée du passé que pour faire quelque chose au pays, il faut nécessairement que quelqu'un puisse servir de parapluie, il faut toujours motiver. Et généralement, ce sont ces gens-là, et il faut l'avouer, qui tombent dans le piège de certains compatriotes, évidemment, ils n'ont pas plié bagage et qui sont encore en train de rôder. Je vais dire quoi? Lorsqu'on arrive au guichet unique de création d'entreprise, eh bien, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui doit faire le suivi de votre dossier. Le système est conçu tel que vous n'avez pas besoin. Vous déposez votre dossier, le dossier, il continue. Il suit son cours normal. Et si jamais il y a un couac, c'est-à-dire, vous voyez, ça peut arriver, hein, on doit l'avouer, ça peut arriver qu'il y ait un couac, il y a plusieurs pesanteurs, plusieurs paramètres, il peut y avoir coupure d'électricité, il peut y avoir dysfonctionnement du système informatique. S'il y a un couac, mais vous n'avez qu'à vous adresser au responsable de l'entreprise pour dire, mais il y a, au lieu de recevoir tous mes documents dans 3 jours, mais j'en suis au 4e, ou au 5e ou au 6e, mais qu'est-ce qui se passe? Le responsable va vous répondre. Mais lorsqu'on a cette idée-là de chercher à faire le suivi signifie, c'est un langage
c'est l'argent,
qui n'est pas dit la réalité.
Ça veut
c'est
dire
la corruption. On cherche à corrompre les agents. Mais encore que ce ne sont
professeur,
pas les agents du guichet unique.
Et professeur,
ça, c'est très, très important. Excusez-moi, je termine par là.
Oui.
Généralement, ce genre de pratiques qui sont dénoncés par notre compatriote, généralement, si vous suivez très bien, vous allez voir que le métier qui s'est chargé de faire le suivi, ce n'est pas un agent du guichet unique, puisqu'il y a beaucoup de gens qui rôdent autour du guichet unique. Et nous travaillons
qui ne sont pas vos agents.
Qui ne sont pas nos agents. Et dès que vous entrez, vous posez la question, je vais créer mon entreprise, il vous prend par la main, il vous amène dans un petit coin, généralement c'est en bas, là c'est le tribunal de commerce, ou bien sous un manguier, et il commence à vous parler, et vous lui remettez les pièces et de l'argent, et vous rentrez chez vous, vous croyez que vous avez travaillé avec un agent du guichet unique, et pourtant ce n'est pas un agent du guichet unique, c'est peut-être un escroc, et généralement c'est ça. Et peut-être si j'ai l'occasion de converser avec notre compatriote, il peut me dire, il peut raconter un peu comment ça s'est passé, puisque cet agent-là, il ne l'a pas trouvé dans un bureau quelconque, il doit l'avoir peut-être recruté en bas ou
sous,
en entrant.
Sous le manguier.
Donc voilà, sous le manguier peut-être.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir 2 auditeurs. Quelle est la contribution de la diaspora congolaise dans la création des emplois en RDC? John nous appelle de Kananga et Valentin depuis Ilebo. John, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles, bonjour, auditeur de Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation, c'est que si cette décision est venue de leur fond du cœur, et il est vrai que cette dernière venait installer ses entreprises et ses supermarchés afin d'éliminer le chômage, parce que lorsque, comme les gens ne travaillent pas, il y a un peu le mouvement que les suicidaires tuent les gens parce qu'ils n'ont pas de travail à faire. Et en même temps que vous voyez qu'au Congo, est tout un peu difficile, quand si une personne termine aujourd'hui ses études et ne trouve pas l'emploi, il reste comme un taximen et il trouve un peu le bus, il est là comme un chauffeur.
Oui, John, alors quelle est votre question par rapport au sujet du jour?
Oui, ma question, c'est que si ce diaspora ont cette tendance de venir, ils doivent d'abord être les non migrants, ils doivent être ici au Congo comme les personnes qui ont le bon cœur de son pays. Et en même temps, je demanderais que si le gouvernement prend la décision de ne plus les recevoir ici au Congo, est-ce que ça sera bon ou ça sera mal?
Bien, merci. Valentin, vous êtes à Ilebo. Bonjour.
Bonjour, journaliste. Bonjour, l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la contribution de la diaspora congolaise dans la création des emplois en RDC?
En tout cas, merci. Concernant cette thématique du jour, moi, je tiens à encourager l'initiative prise par les Congolais de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons plus attendre de l'État pour la création des emplois. Et tout Congolais doit connaître des noms. Pour vivre ainsi de suite, il faut avoir l'esprit de la créativité. On ne peut pas attendre que l'État puisse nous faire quelque chose ainsi de suite. Aujourd'hui, notre population souffre, les jeunes souffrent, il n'y a pas d'emploi ainsi de suite. Alors, cette idée-là, prise par les Congolais de la diaspora, c'est une bonne initiative. C'est quand même la confiance en soi. Donc, des individus. C'est ça, au moins, je tenais un peu à encourager cette initiative.
Merci. D'accord, merci. Valentin depuis Ilebo qui encourage ces initiatives. Patrick Massoya, vous avez suivi le DG du guichet unique, le directeur général. Vous avez suivi également les deux auditeurs. À vous la parole.
Merci. D'abord, j'aimerais remercier le professeur Eradi. Oui, j'aimerais remercier le professeur Eradi. Le DG du guichet unique, d'abord pour avoir pris son temps pour afin de pouvoir partager avec nous quelques réalités. Et je serais content, DG, peut-être d'échanger avec vous en privé après cette émission. Voilà. Moi, selon ce que moi j'aimerais peut-être vous le plus que je peux apporter dans vos services, je sais que vous êtes des agents de l'État, vous travaillez dans la conjoncture actuelle. Ça, c'est réel. En tant qu'un fils du pays, on est conscient de ça. Et je pense que le modèle, la façon de communiquer au public ou bien aux potentiels investisseurs qui, peut-être comme moi par exemple, je pense qu'il doit peut-être être amélioré. Au lieu de dire 3 jours maximum à ces investisseurs, dites-le une semaine ou plus, parce que nous connaissons la réalité d'ici. Vous avez mentionné les problèmes du courant, les problèmes de connexion internet et machin. Donc, je pense que c'est juste une suggestion. Si vous pouvez améliorer votre façon de communiquer avec le public, si, moi en tant qu'Américain,
au lieu de parler des 3 jours, voilà, il faut dire peut-être une semaine, voilà, ou 2 semaines.
Moi en tant qu'un Congolais, je ne me considère pas pour un Américain. Je suis un Congolais. Qui rentre chez lui au pays. Quand vous me dites que non, c'est 3 jours. Et là, je vous assure que je vous informe que ça a pris 2 semaines. Je devrais appeler une de vos collègues là-bas pour essayer un peu de m'éclaircir sur le dossier. Et malgré ça, je devrais encore envoyer quelqu'un pour obtenir mon numéro d'identification nationale. Et moyennant des motivations, je m'excuse, je le dis à haute voix en tant que maintenant quelqu'un qui a vécu, qui a œuvré ailleurs avec une culture un peu différente d'ici. Et cela n'était pas vraiment satisfaisant. Et après,
mais le DG dit que vous n'allez pas voir les responsables directement.
Non.
On vous interpelle sous les manguiers par des gens qui ne sont pas des agents de guichet unique.
Non, ce n'est pas ça. Peut-être d'autres gens. Moi, en tant qu'un responsable, un cadre politique, un entrepreneur, je ne me mets pas sous les manguiers. J'ai un bureau ici et dans nos locaux ici. Et soit je vais chez vous dans votre cabinet. Et si vous avez un cabinet, c'est vrai, c'est une façon de créer l'emploi. Si c'est un cabinet des avocats, je paye mes frais et vous allez faire le travail. Maintenant, c'est quant au guichet unique d'être un peu sincère et puis réel dans son travail. Quand on dit c'est trois jours, alors il faut vraiment être beaucoup plus réel dans ce que vous êtes en train de dire au public. Moi, j'aimerais vous suggérer de penser peut-être à changer cette rhétorique. Là. Au lieu de dire trois jours, essayez de changer à une semaine. Comme ça, là, ça nous rassure un peu. Puisque moi, si je dois envoyer quelqu'un pour récupérer mon identification nationale, mon numéro d'impôt, il fallait que je puisse encore envoyer quelqu'un. Donc, cela n'était pas une bonne expérience. Mais je suis conscient que la réalité ici en RDC est telle qu'elle est. Donc là, c'est normal. Peut-être on pourrait échanger en tant que compatriote et de voir comment apporter un plus dans vos services et vous aider à améliorer ça. Et à ce qui concerne le camarade qui est à Kananga, je n'avais pas bien compris la question, mais je pense qu'on ne refuse jamais à un Congolais de rentrer chez lui. Ça, c'est un. Et ça, c'est un droit naturel. C'est nos droits à nous. Si je décide de rentrer chez moi,
à un certain moment, il y avait ces débats de la nationalité. Oui. Ceux qui sont à la diaspora sont devenus des Américains ou autres. Et à un moment, la loi vous bloque. On dit que la société congolaise est unique.
Voilà, c'est ça le péché. Ce n'est pas un péché de changer la nationalité. Je vous dis à haute voix que s'il faut entrer dans l'Assemblée nationale, le Sénat, dans le gouvernement, nous aurons peut-être 50 à 60% de nos compatriotes qui détiennent de différents passeports. Alors, pourquoi faire tous ces mascarades au lieu de libérer cette partie? Parce que ça affecte l'économie. L'impact de la diaspora dans l'économie, dans le développement, dans l'émergence du Congo est assez important.
Je vous donne parce qu'il semble que chaque année, la diaspora envoie beaucoup d'argent dans les Congolais de la diaspora envoient beaucoup d'argent dans le pays.
Seule la diaspora congolaise, avec ce que nous envoyons, ça dépasse c'est plus d'un milliard de dollars par an. C'est le transfert de Western Union bancaire et manchère. Je vous donne l'exemple. En Égypte, l'année passée, la diaspora égyptienne avait envoyé plus de 18 milliards de dollars dans leur pays. Plus de 18 milliards de dollars, ce qui dépasse le budget du Congo. Je pense que s'il y a facilité, si le gouvernement...
Ici chez nous, c'est combien chaque année vous avez
c'est plus d'un milliard de dollars.
Plus d'un milliard.
C'est ce que la diaspora envoie ici au Congo. Et c'est là, ça contribue, c'est presque le budget de notre pays qui est, je crois, 5 à 9 milliards de dollars. Donc vous comprenez que nous avons un impact.
Mais généralement, cet argent, c'est pour la consommation, les cas des familles, tout ça, mais c'est pas pour monter des entreprises.
Non, pas nécessairement. Nous avons pas mal de Congolais qui envoient des véhicules ici, qui sont dans les imports et exports ici. Nous avons pas mal de Congolais qui achètent des maisons ici, des biens immobiliers. Tout ça, et ça a un effet sur les impôts et tout ça. Donc, ça contribue à l'économie du pays. Et puis, non seulement la création de l'emploi. Je rentre avec moi-même, avec mon expérience en moi. Je viens d'ouvrir ici. J'ai déjà 10 employés que j'ai engagés. Et nous sommes en train de vouloir aller engager plus parce que c'est ça un peu la contribution que nous pouvons en avoir. Nous en avons beaucoup là-bas dans la diaspora, beaucoup de membres de la diaspora qui sont vraiment motivés de rentrer dans leur pays. Mais quelle est la surprise du pays ici? Elle est peut-être différente ici. Elle est vraiment tout à fait différente. Donc je pense que le gouvernement doit faciliter la tâche à son peuple de rentrer chez lui. Comme le chef de l'État que je salue encore une fois de plus, nous les sommes très reconnaissants sur ses efforts de vouloir vraiment faire entrer ses compatriotes dans leur pays. Et il avait bien lancé cet appel. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des mécanismes de suivi et à la guichet unique qu'il y ait aussi des mécanismes de suivi pour la diaspora. Peut-être un bureau spécial pour la diaspora congolaise, ce qui va peut-être motiver plus de Congolais de rentrer chez soi et nous en avons pas mal. Il y a de l'expertise, il y a les transferts bancaires et autres. Donc je pense que ça pourra beaucoup nous aider. Nous sommes une force pour un pays.
Bien. Gabriel est en ligne depuis Gbadolité. Bonjour. Muloko nous appelle depuis la ville de Goma. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons de la contribution de la diaspora congolaise dans la création des emplois dans le pays. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Ce que je peux dire, que moi, je salue cette décision car la diaspora congolaise, le fait de diminuer le taux de chômage que notre pays a envers les jeunes. Justement, ce que aussi l'État doit faire, l'État congolais. L'État congolais a un problème. Quand il y a un jeune qui a une initiative, comme la diaspora a ces initiatives-là de créer d'emplois en RDC, vous allez voir l'État avec ces taxes-là, ces multiples taxes et impôts, ne pas veut donc mettre beaucoup de taxes sur ces initiatives-là vis-à-vis de la diaspora congolaise. Et ce que je peux aussi conseiller à la diaspora congolaise comme suggestion, de pouvoir créer un incubateur qui sera là-bas pour en train d'incubater les stars qui sont en train d'être naître, afin que tout jeune de la RDC puisse avoir cet esprit-là d'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat prend le sommet presque dans le monde entier, presque dans la République démocratique du Congo. Devenir le patron de vous-même, à partir de l'idée que la personne a conçue, cela fera que le taux de chômage puisse diminuer. Car l'État n'a pas vraiment du boulot à donner à tous les jeunes qui sont en chômage ici en RDC. Par exemple, à l'université est en train de produire beaucoup de diplômés chaque année. Et ces diplômés là-bas n'ont pas de boulot. Alors pour parler à cela, il faut qu'on puisse avoir cet esprit-là de création d'entreprise. À partir de l'idée qu'on a conçue, à travers des entrées, donc des formations d'entrepreneuriat, comme je salue d'abord donc la décision que le salon d'innovation du Kivu est en train de faire pour les jeunes entrepreneurs de Goma, à partir de conférences que ce salon fait chaque année dans l'hôtel Cap Kivu. Il est en train de financer beaucoup de jeunes qui déposent leurs projets d'investissement et ce salon les incubate. Et après, ces jeunes deviennent autonomes financièrement.
D'accord. Merci, Mouloko de Goma. Donc, vous encouragez les gouvernements à offrir beaucoup plus des opportunités aux Congolais de la diaspora, mais également aux jeunes qui terminent leurs études ici pour qu'ils puissent monter leurs entreprises. Professeur Amis Hieradi, vous avez suivi les différentes préoccupations. À vous la parole.
Effectivement, j'ai senti dans les paroles de notre compatriote non seulement une certaine sincérité, mais surtout une détermination à pouvoir contribuer pour le développement, n'est-ce pas, de notre pays, ce qui est une chose très encourageante. Et c'est l'occasion pour moi de pouvoir inviter tous les autres compatriotes qui vivent dans les pays étrangers, de pouvoir se rendre compte que effectivement, on ne peut se sentir mieux que chez soi, on ne peut investir véritablement et de manière déterminante que dans son propre pays. Et si tout le monde peut, n'est-ce pas, imiter l'exemple de notre compatriote qui est, n'est-ce pas, tout à l'heure là au studio, et je pense que ce serait une bonne chose, et je pense que c'est la chose que notre président de la République actuelle a toujours, n'est-ce pas, rappelé à tout le monde. Il faut que nous tous nous puissions nous unir autour d'une même vision pour rebâtir notre pays, pour que notre pays aille de l'avant. Alors, pour revenir à la question du guichet unique des créations d'entreprise, je pense que notre compatriote a bien reconnu les efforts, n'est-ce pas, déployés par le gouvernement pour assainir, n'est-ce pas, le climat des affaires. Évidemment, l'assainissement du climat des affaires, c'est une œuvre de longue haleine, ça ne peut pas se décréter et se réaliser en un seul jour. L'essentiel, c'est que les bases ont été posées et ces bases qui ont été posées sont en train d'être solidifiées du jour au jour, de telle sorte que chaque jour qui passe, il y a des réformes qui sont en train d'être mises en place et toutes ces réformes-là convergent vers la mise en place d'un climat des affaires propice pour tout le monde.
Professeur Amissi.
S'agissant du guichet unique des créations d'entreprise, comme il a invoqué, c'est vrai, je note qu'il nous a suggéré de pouvoir améliorer notre communication, mais en réalité, ce que les auditeurs et les compatriotes doivent noter, c'est que au niveau du guichet unique des créations d'entreprise, le principe, je dis bien, le principe reste que la création d'entreprise, c'est une œuvre qui se réalise dans les 3 jours. Ça, c'est le principe. Mais comme il y a certains pesanteurs, il y a certains paramètres qui peuvent faire que le terme glissement, eh bien, ça peut donc arriver, et je pense que c'est ce qui est arrivé à notre compatriote.
Professeur.
Mais ce que moi, je peux demander à tout le monde, c'est que, lorsque vous avez déposé votre dossier au niveau du guichet unique des créations d'entreprise, et que vous sentez que il y a quelque chose qui ne marche pas, et que le traitement ne se fait pas comme ça devait se faire, de grâce, contactez les responsables. Je suis le directeur général et ma collègue également la même chose. nous sommes les responsables d'un service de l'État qui n'avons pas un horaire pour recevoir les gens. Cela signifie que tous les jours et à tout moment, on peut recevoir quelqu'un qui a une quelconque préoccupation. À partir de 6 heures, et c'est tous les jours que je suis à mon bureau, et si vous avez donc une quelconque préoccupation, n'hésitez pas, il faut nous voir. Ne vous confiez pas aux gens que vous rencontrez, n'est-ce pas, à l'entrée peut-être du bâtiment qui abrite les guichets uniques des casseurs d'entreprise, puisque ces bâtiments-là n'est pas logé seulement par les guichets uniques. Il y a également les tribunaux de commerce et il y a également, et c'est généralement le cas, il y a des agents, n'est-ce pas, de ces tribunaux-là qui, des fois, n'est-ce pas, ça donne une mauvaise besogne. Et c'est comme ça que il y a parfois des mécontentements, mais qui ne proviennent pas, n'est-ce pas, des agents du guichet unique des casseurs d'entreprise. Voilà bien ce que je peux dire à ce niveau, mais sinon je remercie les compatriotes et je l'encourage, et tout en invitant tous les autres compatriotes de la diaspora de pouvoir l'emporter le pas et donc venir au pays avec des projets d'investissement. Vous avez amassé des connaissances à l'étranger et il faut que notre pays puisse bénéficier de ces connaissances-là, mais à travers des investissements.
Professeur Amissi, Monsieur Patrick Massoya vous a suggéré, pourquoi ne pas créer par exemple une direction spécialisée seulement pour recevoir les Congolais de la diaspora, comme ça, ça va faciliter les démarches et les choses vont bien fonctionner.
Oui, c'est vrai qu'on a besoin de la participation de la diaspora, mais dire que, en d'autres termes, il souhaiterait qu'on puisse avoir une facilitation particulière pour nos compatriotes de la diaspora. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Pourquoi? Puisque ça risquerait de créer ce qu'on appelle une discrimination dans les chefs des opérateurs économiques. Et vous savez, conformément à notre législation, et c'est écrit noir sur blanc, l'État congolais traite tous les investisseurs de la même manière. Et quand je dis tous les investisseurs, c'est-à-dire que ce soit les investisseurs congolais, que ce soit les investisseurs internationaux, donc étrangers, tous ont droit au même traitement. Et notre pays a souscrit à cela, à des conventions internationales qui posent ces principes-là. Je pense que ce qu'il faut tout simplement suggérer à l'État congolais ou au guichet unique, c'est de veiller à ce qu'on puisse respecter scrupuleusement, n'est-ce pas, le délai qui a été imparti au guichet unique des casseurs d'entreprise. Et le respect de ce délai-là implique également plusieurs choses. Il y a des conditions de logistique, il y a des conditions, n'est-ce pas, d'amélioration, n'est-ce pas, du réseau de traitement de communication avec les autres services intervenants. Vous savez, tous les documents que le guichet unique délivre aux opérateurs économiques ne sont pas générés par le guichet unique des casseurs d'entreprise. Le guichet unique travaille avec d'autres services, l'économie nationale, l'administration des impôts. Et donc, s'il y a amélioration, amélioration quantitative et qualitative au niveau de tous les services intervenants, eh bien, soyez rassurés que les choses vont aller comme tout le monde le souhaite. Je pense donc, pour répondre à votre question, suggérer un guichet particulier, un traitement particulier pour les compatriotes de la diaspora, je ne pense pas que ça soit une idée idoine, mais il faut plutôt améliorer les conditions pour tout le monde. Que tout le monde qui vient au guichet unique des casseurs d'entreprise puisse en sortir avec le sourire, puisque tel a été toujours mon slogan. Et on doit y tenir, il faut que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte. Toutes les conditions qu'il faut pour réussir ces paris-là doivent être réunies. Et donc, il faut que aussi bien l'État, les agents du guichet unique, que les responsables puissent, n'est-ce pas, travailler fortement pour que le respect strict du délai de 3 jours, puisqu'on connaît le guichet unique par ce slogan-là, que ce slogan-là puisse être tous les cas une réalité, dans tous les cas.
Bien.
Quand je dis dans tous les cas, c'est-à-dire il y a des dossiers qui sont traités effectivement, bon nombre de dossiers qui sont traités dans ces conditions-là, eh bien, c'est cela les principes.
D'accord.
Les dérapages, les glissements, ce sont des situations exceptionnelles, mais on doit éviter que les situations exceptionnelles prennent le dessus sur les principes.
D'accord. Voilà. Monsieur Patrick veut réagir.
Oui,
allez-y.
Merci. Professeur Radi, je pense que ce que vous dites là, vous avez raison, mais je pense que vous, en tant qu'un professeur que je respecte beaucoup, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire là. Quand on parle de la discrimination, cela n'a rien à voir avec une facilitation ou bien une orientation à un investisseur congolais ou étranger qui vient d'autre pays, qui a besoin de votre assistance, qui peut-être ne parle pas la langue française ou bien le lingala, ou qui ne peut, peut-être ne comprend pas la culture congolaise, qui vient et vous allez le mettre en masse avec tout un tas d'investisseurs qui ont la maîtrise du terrain. Je pense que cela décourage la morale de la personne. Ça, c'est un. Et deuxièmement, vous aviez parlé, là, je vous ai bien suivi avant, que les gens se croisent sous les manguiers pour passer les documents et autres. Alors, pensez-vous vraiment que si un investisseur américain, belge, allemand venait ici et qu'il n'a pas la facilité de la communication tout d'abord, et il trouve quelqu'un sous le manguier qui parle sa langue, croyez-vous qu'il va venir vers vous? Je ne pense pas. Alors, ce que moi j'ai suggéré, cela va essayer un peu de moraliser les investisseurs, les motiver les investisseurs qui viennent ici. Alors, ayez cette plateforme pour faciliter la tâche, orienter à ces investisseurs qui viennent ici, parce qu'au cas contraire, vous allez nous retrouver tous sous les manguiers, en train de remettre les papiers et de l'argent par-ci, par-là. Je pense que là, vous vous êtes un peu contredit, et je m'excuse de vous dire ça. Et je pense encore, je réitère ma demande, ma suggestion, sur le fait que avoir un bureau, soit un service pour la diaspora congolaise tout d'abord, qui sont le fils du pays, qui veulent rentrer dans leur pays et qui ont besoin de vous en tant que compatriotes qui sont là dans le service pour les recevoir. Sera très important.
Et dans ces services, on peut avoir des agents bilingues
qui
parlent anglais, qui parlent chinois et beaucoup d'autres
langues. Voilà. Et maintenant, cela va nous aider. Et si vous voulez le mélanger avec les étrangers, c'est pas un problème. Mais ayez un peu une facilitation dans ce sens-là. Cela n'a rien à voir avec une discrimination. Nous le voyons dans plusieurs pays, en Suisse, en Allemagne, partout en Amérique même. Alors, il y a des services appropriés pour ces gens parce que ça encourage un investisseur étranger. Ça encourage un investisseur congolais qui rentre chez lui, fièrement chez lui. Mais arrivé là-bas, il trouve des gens sous le manguier, devant le portail, qui parlent leur langue et qui peuvent les aider à expédier les démarches. Donc, je pense que pour éliminer tout ça, éradiquer tout ça, vous, en tant que les autorités, vous deviez au moins reconnaître que c'est vrai que ces besoins existent. Pensez maintenant comment les faire. Au lieu de dire que ça sera discriminatoire parce que vous êtes souscrit dans les accords internationaux. Les accords internationaux vous obligent aussi d'avoir ces facilitations aux étrangers, surtout ceux-là qui ne parlent pas de langue. Ça devient un handicap. Donc moi, je suis contre sur ce que vous venez de dire.
Bien. Alors, le chef de l'État a déjà lancé l'appel. Il a demandé à tous les investisseurs, tous les fils du pays qui sont à l'étranger de revenir. Ils ont des connaissances, ils ont beaucoup de choses à apporter au pays. Quelles sont les autres facilités que vous demandez au gouvernement ou un cadre pour faciliter le retour et les investissements au pays?
Oui, encore, je vais réitérer encore ma demande à nos autorités. Et quand vous faites un appel à des compatriotes de rentrer chez eux dans leur pays, je pense qu'il faudra avoir des mécanismes de suivi, des mécanismes d'accueil à partir de l'aéroport. Quand un Congolais rentre chez lui avec une pensée d'investir ici, par exemple, il faudra que le gouvernement ait tous ces mécanismes pour l'aider, l'accompagner. Mais quand nous rentrons ici, nous payons des visas. C'est vrai, ce sont des normes de migration, ça c'est normal. Nous respectons toutes ces normes parce que nous sommes des étrangers naturalisés, n'est-ce pas, qui rentrent dans leur pays. Mais non, le gouvernement doit avoir ce mécanisme de suivi et de facilitation qui pourra nous aider, encourager d'autres compatriotes qui sont nombreux, qui attendent de voir les résultats de Patrick. Moi, je suis rentré ici dans les concrets. J'ai promis de rentrer. Je viens d'installer ma fondation. Je viens d'installer une entreprise. Et déjà, dans moins de mois, j'ai 10 employés qui travaillent maintenant dans mon entreprise. Et nous voulons continuer. Nous avons besoin de ces supports du gouvernement qui va nous accompagner, qui va faire des suivis, de voir comment nous évoluons.
Est-ce qu'il y a des difficultés déjà au niveau de l'octroi des visas pour certains compatriotes?
Tout à fait, oui.
Naturalisés, américains, suisses et autres.
Non, là, je salue l'effort du chef de l'État. Au moins, il a permis aux Congolais de la diaspora d'obtenir des visas dans l'aéroport. Et même si vous dépassez vos séjours, vous ne serez pas pénalisé comme d'autres étrangers. Ça, en tout cas,
Les visas aéroportuaires.
Voilà. D'accord. Nous sommes reconnaissants à cet acte du chef de l'État que nous sommes là pour l'accompagner dans ses efforts de développer le Congo, et nous sommes là pour l'accompagner et surtout pour combattre, lutter contre le chômage et la pauvreté dans ce pays. Là, c'est vraiment correct. Ça, c'est très bien. Maintenant, la diaspora congolaise en soi,
nous avons besoin de ces suivis et de toutes ces facilitations. Je ne demande pas d'être pris à un privilège, tout ça, des traitements personnels, non. Oui. Mais au moins, en tant que les Congolais qui rentrent chez eux, nous avons aussi droit à certaines exonérations sur le plan des impôts et autres pour que cela nous encourage et nous motive encore mieux d'aller vers l'avant. Donc, je pense que c'est ça la demande de la diaspora. Là, je parle au nom de toute la diaspora congolaise de partout dans le monde, et en Angola, partout. Donc c'est ça nos entendements auprès du gouvernement et je lance cet appel, je continue à réitérer ma demande auprès du chef de l'État pour qu'il y ait un mécanisme de suivi et de facilitation à tous les compatriotes qui voudront rentrer dans leur pays. Donc c'est dans ce sens-là.
Le mécanisme d'encouragement, dire par exemple, celui qui rentre au pays investir, il n'aura pas à payer les impôts pendant telle ou telle autre période, à condition d'embaucher autant des Congolais dans sa structure.
Voilà, si là il remplit ses quotas, et je pense que oui, le gouvernement va l'accompagner. C'est pour... Ça va motiver à beaucoup de Congolais. Nous avons pas mal de Congolais qui sont des entrepreneurs aux États-Unis, Canada, Europe, partout. Ils sont là prêts de rentrer chez eux. Et la plupart des fois, quand ils rentrent, ils sont perdus. Et voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Même au niveau de la DGM, il faudra que vraiment que le chef de l'État lui-même puisse prendre tous ces démarches, pas en charge en personne, mais au moins de renforcer tous ces actes, tout ce travail de la DGM et de voir comment la DGM pourra nous assister dans plusieurs démarches. Donc voilà un peu la demande de la diaspora.
Quelle est la contribution de la diaspora congolaise dans la création des emplois en RDC? Jérôme, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Quelle est votre préoccupation?
En tout cas, moi je suis intéressé par ces démarches. Ces démarches sont louables vraiment. Et en ce qui concerne la diaspora congolaise, nous savons que le Congo traverse un moment très très difficile en ce qui concerne la situation socio-économique. Et si aujourd'hui la diaspora, les Congolais vivant à l'étranger prennent leur conscience, comme je l'ai mentionné dans mon commentaire, ce qui avait amené le peuple français à la révolution, c'était la prise de conscience. Et aujourd'hui, si ces Congolais-là qui vivent à l'extérieur du pays trouvent ou regardent et voient que leurs compatriotes ici au Congo vivent des vies inhumaines, il n'a qu'à investir. Et s'ils prennent leur conscience, c'est au niveau maintenant du gouvernement d'accompagner cette diaspora. Ce sont des démarches qui sont vraiment à ne pas prendre à la légère. Car aujourd'hui, nous voyons les Chinois qui sont ici, ils exploitent les Congo, mais ils investissent chez eux. Et pourquoi pas les Congolais qui ont des moyens? Et cela va dans le sens de relever l'économie congolaise en ce qui concerne la petite et moyenne entreprise. Prenons un exemple. Nous avons des jeunes ici, entrepreneurs, qui peuvent travailler et faire développer le pays. Mais ils n'ont pas les moyens, compte tenu de la conjoncture et de la situation économique que traverse la RDC. Et c'est là que j'ai dit au gouvernement d'accorder des mesures, par exemple les exonérations aux entreprises là qui viennent récemment de mettre, puisqu'il y aura des jeunes qui vont investir, mais il faut que l'État voie dans quelle mesure accompagner ces initiatives, par exemple en supprimant certaines taxes qui étouffent le développement. Il y a des jeunes entrepreneurs qui sont là et qui ont des moyens, mais faute de l'accompagnement de l'État, ces jeunes ne parviennent pas à investir et à développer leur entreprise. Je prends un exemple d'un jeune qui vient récemment de l'université et il s'est fait, je ne sais pas, cabiniste pour vendre les unités. Et il s'est dit de lui-même que si j'aurais les moyens, je vais ouvrir une autre cabine quelque part et quelque part encore. Et par là, vous verrez les agents de l'État venir leur demander le permis d'ouverture, tel document. Et après, ces jeunes-là se découragent. En ce qui concerne les initiatives de la diaspora, de soutenir la moyenne et la petite et moyenne entreprise, en tout cas, moi, je demanderai au gouvernement, puisque j'ai des preuves, je suis moi-même aussi victime, j'ai mes projets dont je soumets. Mais faute de moyens avec l'État actuel, j'échoue et je fais les tours sur place, je fais les marquer les pas, je n'avance pas. Donc, je demanderai à sa.
Merci, Jérôme. On a bien compris votre préoccupation. Charles nous appelle des Cabinda. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la contribution de la diaspora dans la création des emplois en RDC?
Je voudrais vous dire que les autorités congolaises découragent beaucoup ceux qui sont en étranger qui veulent envoyer leur entreprise au Congo. Par exemple, j'ai une grande famille en Europe. Ma grande famille voulait envoyer une entreprise ici, particulièrement chez Sabine, mais nos autorités d'ici lui disent que Cabinda, c'est notre bien privé. Alors, pour envoyer quelque chose là-bas, il faut d'abord passer par d'autres formalités qui lui semblent un peu difficiles, les raisons pour lesquelles elle est un peu découragée de ne pas envoyer encore cette entreprise-là. S'il paraît qu'on revient à la normale ou
Charles,
bien...
Charles, quelles sont ces formalités qui bloquent l'installation de cette entreprise ici?
Premièrement, des taxes. Après, ils veulent tout politiser ici à Cabinda. Donc, dès que quelqu'un veut faire quelque chose, il faut qu'il soit membre d'un parti politique quelque part. Alors, si tu n'es pas membre de ce parti politique-là, difficile de faire quelque chose pour que ça puisse aller en avant.
D'accord. Merci, Charles de Cabinda. Professeur Amissi, vous avez la parole.
Oui, évidemment, là, je dois également parler comme, directeur du guichet unique des cassos d'entreprise, mais comme tout Congolais. Et une fois de plus, je dois réitérer mes encouragements à ces initiatives de nos compatriotes de la diaspora qui cherchent à investir à tout prix dans notre pays. Évidemment, j'ai suivi les interventions d'autres compatriotes qui font allusion à des mauvaises pratiques, et je pense que ces pratiques-là doivent prendre fin. Ça, le président de la République.
Oui, professeur Amissi.
Contribution des Congolais. Ce sont tous les Congolais, tous les fils et toutes les filles des Congolais qui doivent mettre la main à la pâte, comme on dit, pour que notre pays aille de l'avant. Et la diaspora, j'insiste beaucoup, la diaspora a cet avantage d'avoir accumulé beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances, n'est-ce pas, des pays de l'étranger. Une autre expérience que nous, ici au pays, nous n'avons pas. Et il faudrait que cette accumulation de connaissances, d'expériences, puisse profiter à notre pays. Et elle va profiter à notre pays à travers, notamment, des œuvres d'investissement. Il est donc encourageant de pouvoir inciter la diaspora congolaise à pouvoir investir dans les pays, puisque c'est en investissant qu'on lutte contre la pauvreté.
Oui. Professeur, il y a quelques petits soucis au niveau de la liaison téléphonique.
Oui.
Oui, allez-y maintenant, on vous entend mieux.
Ah non, je disais qu'il n'y a pas meilleure manière de pouvoir sortir de la pauvreté dans laquelle notre peuple croupit que de pouvoir encourager les initiatives d'investissement au pays. Puisque j'ai toujours considéré un investissement comme la sécurité de sécurité. Et donc, si quelqu'un veut entreprendre, veut investir, il faudrait qu'il soit encouragé.
D'accord. Merci, professeur Iradi. Je rappelle que vous êtes directeur général du guichet unique des créations d'entreprises en RDC. Merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée. Bien, merci, professeur. Alors, je reviens à vous, monsieur Patrick Massoya. Vous avez suivi les autres compatriotes qui se sont exprimés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je pense que là, nous sommes dans un état de droit. Si à Cabinda, il y a des gens qui décourage d'autres compatriotes de la diaspora d'envoyer d'envoyer de l'argent à leur famille. Et je pense que ces actes, ces manœuvres illégales doivent être vraiment éradiquées. Mais j'aimerais aussi remercier à tous nos auditeurs, mais aussi Le professeur Iradi, bon, voilà, je crois que vous avez compris notre souci. Là, je parle en tant qu'un ambassadeur de la diaspora, au nom de toute la diaspora. Et si vous, si le gouvernement n'a pas de mécanisme, mon entreprise globale peut vous assister gratuit avec tous les services possibles. Comme ça, cela va faciliter à nos compatriotes de rentrer au pays et investir au pays, ouvrir leurs entreprises.
Déjà, vous avez dit au niveau des visas, il n'y a pas de souci. Donc,
non, il y a toujours un souci.
Lequel?
Oui, le souci est que si nous payons un visa ici, et ce visa, des fois, nous ne nous autorise pas d'œuvrer comme il faut. Alors, en faisant la demande d'un visa permanent, ça crée encore un souci. Donc, il y a plusieurs soucis dans ça. Si nous essayons d'entrer dans ça, ça va nous prendre toute une journée. Mais je pense que le ministère de tutelle ou bien les différentes branches du gouvernement, ils comprennent facilement de quoi je suis en train de parler. Mais si le président de la République lui-même s'en occupe, il crée un mécanisme de suivi et de facilitation à ses camarades de la diaspora, je pense que tous ces problèmes seront facilement réglés.
Bien, nous disons merci à Monsieur Patrick Massoya. Je rappelle que vous êtes promoteur d'une structure dénommée Global Consulting Investment Network qui vient de s'installer ici en République démocratique du Congo. Vous êtes de la diaspora américaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci.
Ok, on voit bien. Cette parcelle n'est pas à vendre.
Tous les habitants. Et bon, on va de gauche à l'ouest, nord-sud. Et bon, on va voir les rois de la forêt. Yawara, yawara, yagam.
Allez tout le monde, allez pas bloquer. L'enfant de Dieu.
1, 2, 3.
Avec
l'adresse.
Allez bloquer. Joël, ça j'adore. Ce qui n'a pas bien mieux bien qu'on a la présence qu'on m'a présenté. Quelle boule systématique.
Alors, on est canou yo yiko.
Oh, petit frère. L'infinitif est dit qu'il m'a
dit.
Le patron m'a envoyé. Big Master. Ma campagne n'y a son amaye. Godard Motemona. Mali Freding. José Mokeba. Opération Dragon. La filière de vente. Wakamoto Tolekae.
Two times, three times, allons-y.
l'opération Dragon, l'éclairé Sankara de Kunda. Mais quand la guerre de Satan, le Kéboba et Mijanji Koulamba, tu vous voyais. Allez, Maïdo Papin Koumou. Bonard Kalouji, l'intouchable. Le véritable japonais, la pistole. Éric Kekenjo.
Comment tu t'appelles
Ram? Le lieu de Bondome, c'est
Dono Ram, c'est méchant et Dono
J.P. Mindia
Yagami, 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 Yagami
Indo de Moula Japon Milana Bro de Monia Coccinelle Big Tom Sassaba Sen
Yeden Gedi
Alali Manatu
Mr. Denebani
Alali Manatu
Zakari Bababas,
Nganda
Monique na Luanda, Namukati, Claudine Kino, Freddy Ngoma, Berthe Mosolo, Ipapa, Ambara Mote Mama Bea, le vrai empereur du Canada, Tissongo.
Fidèles auditeurs, nous clôturons cette première partie de l'émission Okapi Service. Nous allons suivre tout à l'heure les informations et on se retrouve dans...
Radio Okapi vous propose ses programmes en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service consacrée à la contribution de la diaspora congolaise dans la création des emplois en République démocratique du Congo. Je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus de Congolais de la diaspora se lancent dans l'entrepreneuriat en RDC. Ils investissent dans la restauration, l'informatique, l'environnement, le secteur alimentaire et autres. Certains ont créé des structures qui permettent des échanges commerciaux entre la RDC et l'étranger. Pour bon nombre des gens, ce sont là des initiatives louables car cela constitue des opportunités d'emploi dans un pays où le taux de chômage est très élevé. Cependant, certains Congolais de la diaspora estiment que l'État congolais n'offre pas suffisamment de facilités pour mieux investir au pays. Alors nous avons en ligne Monsieur Papito Mwanda. Il est de la diaspora française, il évolue dans les secteurs de l'informatique. Papito Mwanda, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Alors dites-nous, comment est-ce que la diaspora peut contribuer davantage dans la création des emplois ici en RDC?
Oui, donc c'est un sujet très important, qu'on a toujours eu les soucis. On essaie de partager aussi, mais c'est vrai que... C'est d'abord, faut comprendre les vagues des diasporas qui sont en Europe. Hein, il y a eu plusieurs années, il y a eu plusieurs migrations vers l'Europe. Et puis, à un moment donné, nous sommes décidés, il faut qu'on rentre au pays. Mm-hmm. C'est vrai que pour accompagner venir ouvrir une activité, disons commerciale, une activité d'entreprise ou quelque chose, d'abord, il faut connaître le milieu. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de structures qui permettent d'encadrer et de pouvoir communiquer de manière aussi facile à nos frères qui sont en Europe pour leur ouvrir des opportunités qui sont ici. Mmh. Certes que l'État congolais lui-même a mis en place la NAPI, mais quand vous regardez la NAPI est orientée 90% pour des étrangers. Quand ils vont à l'extérieur, ils font quasiment des... Je suis pas contre, hein. Je voulais que le DG de NAPI, que je connais personnellement, Monsieur Anthony Kinzo, qu'il prend pas, qu'il s'y attaque. Non. C'est justement, c'est aussi une opportunité qu'il doit ouvrir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vend aussi la République au point de certains Congolais qui sont à l'étranger, qui ne maîtrisaient pas encore le rouage des activités au Congo. Donc, il faut qu'on leur ouvre la porte. Donc, quand j'ai suivi les précédents intervenants, donc on est dans le même souci. C'est-à-dire que l'État doit ouvrir certaines les marchés, certaines possibilités, certaines ouvertures à nos frères et sœurs qui sont en Europe, qui ont envie de venir. Mettez-vous à notre place, vous avez passé 20 ans en Europe. Vous êtes parti en Europe, moi je suis parti en Europe, j'avais 19 ans. Vous retournez au Congo, vous avez quasiment 40 ans. Vous ne connaissez presque plus rien au Congo. Donc vous avez envie de lancer les activités. Mmh. Mais il faut vous référer quelque part, il faut que quelqu'un vous dise. Donc il faut qu'il y ait des instruments ou des institutions qui peuvent vous aider. Donc voilà un peu les difficultés qu'on a souvent les amis qui viennent diaspora. Moi-même, je suis rentré à Kinshasa depuis 2008.
Oui.
Mais ce n'était pas facile. Donc,
vous avez déjà lancé des activités ouvertes, vous avez investi ici?
Oui, effectivement, nous avons investi ici. Aujourd'hui, nous comptons une trentaine des employés. Et puis, nous avons plusieurs activités dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que ce n'était pas facile au départ. On est venu, donc au départ, moi je suis ingénieur informaticien, donc je suis ingénieur électrotechnicien et informaticien. Mm-hmm. Donc du coup, il faut évoluer dans le milieu, ce qu'on appelle l'informatique industrielle et automatique. Donc, on arrive ici, il faut d'abord savoir qui sont vos clients. Vous voyez un peu les problèmes. Comment s'y prendre avec ces clients-là? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Comment pour ouvrir une entreprise ici? C'est vrai que en 2008, quand nous sommes venus ici, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se dire quand même qu'il y a beaucoup plus d'informationnel qui est en place. Mais avant, il n'y en avait pas. Mais on doit continuer. Parce qu'il y a beaucoup de diasporas qui sont ici, qui veulent bien aller dans le monde des business, dans le monde des affaires, qui veulent ouvrir les activités, mais qui va les orienter? C'est ça un peu le problème.
Voilà. Mais quand vous arrivez au pays, au niveau de l'Agence nationale de la promotion des investissements, est-ce qu'il n'y a pas vous ne retrouvez pas, on vous livre pas toutes ces informations là-bas?
Oui, quand vous regardez, donc je peux dire oui, on livre pas toutes les informations. Dans quel sens? Le panel des informations que vous trouvez dans le site, vous pouvez aller dans le site de l'ANATI, le panel des informations que vous trouvez, c'est 90%, c'est des informations qui concernent des gens qui viennent avec des millions et des milliards. Est-ce que tous les Congolais qui quittent diaspora, qui quittent leur pays de résidence aujourd'hui pour revenir dans leur pays d'origine, est-ce qu'ils ont tous des millions? Non. Parce que il y a des ouvertures. On peut nous présenter des informations sur des investissements à certaines hauteurs. Donc, l'agence ne va pas rester qu'à montrer l'opportunité à X. L'agence pourrait aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a de pouvoir solliciter aussi des banques. C'est vrai qu'on n'oblige pas une banque de prêter de l'argent aux gens, mais peut-être de créer cette synergie, de dire, à tant qu'agence, il a des spécialistes dans des domaines. Donc, ils disent, voilà, au Congo, ces derniers temps, nous avons un problème de Covid. Alors, est-ce que les idées créatives de certains équipements robotiques qui peuvent permettre un lavage des mains automatiques, à des scies automatiques, ils peuvent faire des appels aux Congolais qui sont à l'étranger? Non, il y a l'opportunité d'investir sur ces domaines-là parce que les PSP vont l'acheter, les universités telles vont l'acheter parce qu'ils en ont besoin pour les étudiants vont nettoyer la main. Et puis de voir de l'autre côté à une banque, de dire, voilà, nous avons des Congolais de diaspora qui ont de l'expertise, qui peuvent venir ici, alors nous avons le besoin est là à côté et il y a aussi le problème des moyens. Donc voilà un peu ces genres de mécanismes, s'il est mis en place, ça pourrait faciliter aussi l'intégration à nos confrères qui viennent de l'extérieur. Parce que tous ceux qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas seulement le moyen, ils ont des capacités intellectuelles aussi qui sont très importantes. Vous savez qu'aujourd'hui, meilleure façon d'investir, c'est d'investir à l'homme à travers des formations. Vous voyez un peu, donc c'est un peu les soucis que nous avons, nous qui ont fait le choix de dire, on laisse nos joies qu'on avait en Europe, on s'est dit non, on doit partager le bonheur que tout le monde parle que le Congo c'est un pays qui a toutes ses potentialités. Je trouve que nous sommes rentrés ici pour partager ces potentialités-là. Voilà.
Bien. Quelle est la contribution de la diaspora congolaise dans la création des emplois en RDC? Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radioukapi.net. Nous allons accueillir les auditeurs. Olivier est à Goma, Roger à Mbumba, voilà, dans le Kassai central. On commence avec Olivier Tabanza de Goma. Bonjour. Voilà, Olivier, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la contribution de la diaspora dans la création des emplois au pays?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous tous, nous savons que les pays, hein, les gens à la diaspora ont plus d'importance et d'impact dans les pays lorsqu'ils viennent avec les idées innovatrices pour contribuer à l'entrepreneuriat et la création d'entreprises dans le pays. Cela est d'une grande importance au point où cela, avec leurs initiatives, leurs innovations dans les pays, ça crée de l'emploi, ça investit aussi dans les secteurs des créations des capitaux et des banques. Parce que si le PIB d'un pays est élevé, c'est en raison de la production intérieure, d'où les gens de la diaspora, avec leurs investissements, y compris ceux des nationaux locaux, qui parviennent à investir au pays, cela peut créer vraiment des économies dans les pays pour l'impact dans la résolution des problèmes de chômage dans les pays. Cela peut être possible lorsque notre gouvernement va intervenir dans les secteurs aussi d'allègement des taxes qui sont imposées parce que le climat des affaires au pays est bizarre. Voilà pourquoi ils ont toujours eu des problèmes lors de leurs investissements dans les pays, même ceux locaux. D'où, si le gouvernement facilitait les tâches et la stabilité dans le secteur des taxes, leur impact pour la croissance du PIB du pays est d'une grande importance et personne ne peut le négliger. Parce que si nous regardons même les autres étrangers qui viennent investir au pays, les Libanais et les autres là-bas, s'ils investissent, l'argent qu'ils gagnent n'entre pas dans la caisse de l'État, n'entre pas dans le trésor public, c'est importé chez eux. C'est-à-dire notre pays ne gagne pas dans ce qui se fait dans les transactions ou les opérateurs économiques étrangers qui viennent investir. Mais si ce sont des nationaux, cela va donner plus de l'économie au pays et plus du poids dans notre économie. Quelle est mon intervention quant à ça?
Bien, merci Olivier de Goma. Roger, vous êtes à Mbumba, dans le Kassai central. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les invités de Radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la contribution de la diaspora dans la création des emplois au pays?
D'accord, on est trop plus ravi par la création des emplois de la diaspora. Vraiment, ça nous ravit, nous, beaucoup plus par les idées à qui la diaspora peut nous donner des créations des emplois. On se sent qu'on voit un pays n'est peut-être qu'un pays s'il y a des créations des emplois et les hommes, les jeunes se retrouvent avec des moyens par-ci, par-là. Et puis, il y a des entreprises et autres. Et nous, au Congo, on se retrouve aujourd'hui que quelqu'un peut créer quelque chose qui n'amène rien à l'état du territoire national. Par exemple, quelqu'un qui peut créer, il dit, non, je crée l'emploi des petites et moyennes entreprises. Il ouvre un restaurant. Un restaurant ne peut amener, ne peut contribuer à rien dans le territoire national. Quelqu'un qui peut créer aujourd'hui, dit, j'ouvre une pharmacie. Bon, qui ouvre une bureautique. Dans une bureautique, il peut engager combien de jeunes pour le développement du pays et pour lutter contre le chômage. En fait, ce ne sont pas des histoires qui peuvent amener l'État congolais ou le gouvernement national à étaler dans presque le territoire national. Nous sommes ravis par l'idée du diaspora si elle ouvre des entreprises à qui elle peut engager même 50% de jeunes de la République. Ça peut nous donner les implices. Pourquoi est-ce qu'on va d'abord lutter contre le chômage? Les Congolais ne font presque particulièrement rien. On ne fait rien au Congo. On est des chômeurs, on termine des études, on chôme, on ne fait rien. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas des entrepôts. Il n'y a pas des entreprises pour lutter contre le chômage. Aujourd'hui, le président de la République, qu'il est élu jusqu'à présent, il a dit qu'il va s'incarner sur l'état des droits. Et si la diaspora a donné l'idée de créer des petites et moyennes entreprises pour lutter contre le chômage, nous l'encourageons. Et le gouvernement congolais peut encourager des idées comme ça, et puis soutenir la diaspora, ouvrir ses histoires, et puis si la diaspora engage au moins certains hommes, certains jeunes femmes ou hommes dans l'entreprise, on est d'abord contre le chômage, et puis le gouvernement, l'État congolais n'aura pas droit à avoir encore beaucoup de jeunes à donner les matricules. Pourquoi? C'est parce que nous étudions pour avoir l'argent.
D'accord, merci.
Des entreprises,
merci Roger. D'accord, merci Roger. Monsieur Papito Mwanda, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces intervenants?
Oui, j'ai vu quand même les intervenants qui sont très intéressants, qui ont vraiment touché sur le point. C'est vrai que quand je retourne auprès, d'abord je commence par le tout dernier intervenant, pour dire que les diasporas, quand ils viennent pour mettre en place des structures qui va permettre à engager aussi des personnes à côté, il y a c'est deux paires de manches. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un investissement qui doit se faire, de l'autre côté, il faut qu'on trouve des preneurs de cet investissement. Donc, si on ne trouve pas, on ne sera pas aussi engagé beaucoup de personnes dans nos activités. Et deuxième chose encore, nos frères qui sont restés ici, on a aussi un problème, je vais toucher un peu plus loin, on a un problème de formation académique aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous qui avons eu la chance d'étudier à l'étranger, c'est-à-dire que lorsque vous sortez d'une école d'ingénieur, vous êtes automatiquement un créateur d'emploi, vous n'êtes pas un demandeur d'emploi. Alors, le diaspora qui arrive, avec le peu de moyens qu'il arrive avec, mais il arrive déjà à faire quelque chose. C'est vrai que, comme on dit toujours, nos structures des pays, notre façon de faire dans notre pays, aujourd'hui, ça ne nous facilite pas. Ça ne nous facilite pas de faire des grands investissements. Pourquoi ? Parce que, d'abord, pour avoir un marché, c'est tout un problème. Donc, on met déjà des appels d'offres, dans les appels d'offres, déjà le coût, donc le montant, le critère de ceci, et déjà, ça exclut déjà certaines personnes. Or, et pourtant, ce que nous venons avec, nous commençons tout petit, mais nous finissons pas tout petit. Donc, mon frère qui m'excuse, on fait pas des boutiques, on fait pas des cybercafés, mais ce cyber-là qu'on fait aujourd'hui, et ça peut devenir plus grand, ça peut devenir une chaîne, ça peut devenir une chaîne de cybercafés. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il voit pas les choses dans le miniature, mais qu'il voit les choses aussi dans les grandeurs d'élargissement. Alors, donc, de l'autre côté, que notre confrère avait dit, nous avons cette difficulté-là. Il a totalement raison que l'État lui-même ne met pas de moyens à notre disposition. C'est vrai que quand vous prenez FPI, il existe des institutions de crédit. Vous prenez FPI. Quand vous venez déjà comme diaspora, vous venez ici, déjà, il faut exclure FPI, il ne va pas vous donner. Parce que, vous devez exister. Deux, vous devez faire des apports. Si vous n'avez pas des apports, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas le crédit. Comment peut-on nous développer si nous arrivons dans l'institution, dans un pays où on nous trouve encore, donc on devient encore des étrangers dans notre propre pays? Voilà un peu la difficulté, mais il faut savoir que tous ces frères qui sont aujourd'hui en Europe, ils sont fatigués. Ils veulent tous rentrer au pays, créer des activités. Mais ces activités-là, ça a des impacts partout, mais à Mali, dans le pays d'Afrique de l'Ouest, et là-bas, vous regarderez, c'est les diasporas qui sont revenus dans leur pays, qui ont créé d'emplois, et ces emplois-là ont permis à des jeunes. On n'est pas obligé de créer une entreprise qui doit pas...
Même aujourd'hui, vous allez en Éthiopie, à Addis Abeba, beaucoup des bâtiments, des immeubles sont construits grâce aux investissements de la diaspora.
La diaspora. Donc, si vous regardez ici, même au niveau de Ginkgo Bagosi là-bas, il y a aussi des idées. Vous voyez voir qu'il y a des entreprises qui sont en train de faire des constructions. Et quand vous regardez dans l'origine de ces entreprises, c'est la diaspora. Donc, nous, on est rentrés au pays avec l'esprit de faire quelque chose dedans. Mais c'est vrai qu'en arrivant, il nous faudrait un temps. Parce que, il n'y a pas, comme je redisais tout à l'heure, il y a un problème de structure d'accueil, il y a un problème de structure d'accompagnement. Il y a aussi un problème de professionnalisme auprès de nos frères qui sont restés ici. C'est-à-dire que, vous allez voir une personne, on lui donne des responsabilités, mais il n'a pas aussi l'esprit, le même esprit que nous, qu'on est fini avec. Il n'a pas le même esprit. Donc, vous voyez, c'est tout un, vraiment, je vous dis, c'est tout un chapitre qui est vraiment, il y a beaucoup d'histoires là-dessus.
Oui, monsieur Papito, on a appris que ce qui décourage beaucoup plus nos frères de la diaspora, c'est la corruption. Les pourcentages, vous arrivez avec votre projet d'entreprise, une autorité quelque part vous dit de donner 30-40%, sinon, ça bloque.
Bon. Ça, moi, je ne peux encourager parce que je dis, lorsque nous venons ici, il y a deux choses, il y a deux projets. Il faut qu'on se mette dans la tête. Lorsque vous venez ici, vous dites, je vais vendre une prestation dans une institution publique. C'est là où vous trouvez souvent ces genres de pratiques. Parce qu'il veut vendre. Il veut être collaborateur d'une institution publique. Mais lorsque vous montez une activité qui est à mécher tout le monde, en tout cas, je peux pas témoigner, mais je peux vous dire qu'on a moins ce genre de problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le plus gros employeur de la République, c'est l'État. Le plus grand employeur, c'est l'État. Donc, c'est le fait que, la plupart des cas, les amis viennent avec des projets. Ils viennent avec des projets. Ils disent, bon, je vais trouver des financements à l'extérieur. Je viens avec des projets. Et ces genres de choses qui se retrouvent sur ces problèmes-là, les problèmes des pots de vin, des problèmes des commissions. Alors, lorsque vous allez à ça, vous trouvez des commissions. Moi, j'ai eu à monter une entreprise ici depuis 2008. Nous avons œuvré dans le domaine informatique. Aujourd'hui, si les journalistes me permettent, je peux citer ce qu'on fait, mais c'est pas la publicité. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, on a commencé l'entreprise avec deux agents. Aujourd'hui, nous sommes trentaine d'agents. Et il y a aussi des gens qui étaient dans notre entreprise, qui sont partis à l'étranger, qui sont partis ailleurs. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'entreprise a constitué une grande famille. Mais au départ, on a commencé à deux. Donc, c'est-à-dire que c'est question. Je me suis aussi retrouvé dans ce genre de problèmes. Vous allez vendre une prestation, on vous dit, voilà, on va vous donner ces prestations, mais à condition que vous devez prendre soit un frère à lui, soit, voilà. On s'est retrouvé à ça. Mais cela ne nous a pas empêché parce que je voulais quand même édifier aux auditeurs que ça n'existait pas qu'au Congo, hein, même ailleurs, ça existe aussi.
Oui. D'accord. Papito, un instant, on va accueillir John depuis Likasi. John, bonjour. John, vous êtes à Likasi, bonjour. Voilà, il est parti. Et il n'est plus en ligne. Mais Monsieur Papito, certains disent que pour avoir des facilités, de bien travailler, il est important d'adhérer, par exemple, à une chambre de commerce où vous serez encadré. Il y a des collègues qui sont dans le même secteur que vous, qui vont vous aider à trouver des marchés ou à bien installer votre structure.
Tout à fait. Ça aussi, c'est une voie. C'est une voie d'aller dans une chambre de commerce. Mais il faut savoir que d'abord, quand vous êtes en France, vous avez une chambre de commerce de l'État français qui existe. Quand nous sommes ici, vous avez plusieurs chambres de commerce. Et vous devez faire appartenir dans plusieurs ces chambres de commerce, mais derrière ça, il faut payer des cotisations. Il faut payer des cotisations, c'est pas gratuit. Donc, ce qui fait que vous devez d'abord exister, faire de preuves pour pouvoir suivre toutes ces cotisations-là. Parce que vous allez à FEC, vous devez payer des cotisations. Attends, vous allez à Belgo Congolais, à Franco-Congolais, vous devez payer des cotisations. Vous devez aller à Belgo. Donc, toutes ces chambres-là, vous devez payer les cotisations. Donc, or, vous devez déjà exister. Donc, voilà. Le problème majeur que les diasporas se retrouvent aujourd'hui butés à leurs investissements ou à leur intégration, c'est déjà de pouvoir y accéder au marché public.
Oui. Monsieur Papito, votre entreprise évolue dans quel secteur?
Nous, on est dans l'informatique. Donc, on travaille dans l'informatique. On développe des solutions informatiques spécifiques pour des entreprises publiques et l'État congolais.
Bien. Et c'est l'unique activité ou bien vous êtes dans diverses activités?
Nous avons encore développé notre activité qui est de la construction. Donc, on est dans la construction. Ça fait 2 ans qu'on est dans la construction. C'est la deuxième activité qu'on a lancée. Et nous sommes en train de compter encore de lancer les 3e activité, mais il y a encore dans nos études. C'est vrai que il y a beaucoup des opportunités, comme j'insiste toujours. Les diasporas, si on leur donne la possibilité, si on leur donne les ouvertures, si on leur ouvre de portes, ils sont capables de ramener, de diminuer le chômage. Ils sont capables de diminuer le chômage.
Bien, nous allons accueillir un autre Congolais de la diaspora, Augustin Koutikila. Il est de la diaspora française. Il évolue dans les secteurs de la protection de l'environnement. Monsieur Augustin Koutikila, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur Augustin Koutikila.
Bonjour. Koutikila, d'accord, merci.
Koutikila, je vous en prie.
Bien, Augustin Koutikila. Nous parlons aujourd'hui de la contribution de la diaspora congolaise dans la création des emplois en République démocratique du Congo. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions pour que les Congolais de la diaspora rentrent au pays, qu'ils investissent davantage?
Moi, je crois que normalement, déjà d'une, il faudrait nécessairement commencer par assainir le milieu de climat des affaires, parce qu'on sait qu'au Congo, c'est extrêmement difficile d'investir, surtout quand on est congolais, parce que nous n'avons pas, en termes de chances et d'opportunités, sachant très bien qu'on ne vient qu'avec nos apports personnels, c'est très difficile. Sachant très bien qu'aujourd'hui, au niveau du Congo, pour obtenir une subvention ou un accompagnement d'une banque, c'est extrêmement compliqué. Donc déjà, nous partons avec beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, limite, il faudrait nécessairement, se faire violence, extrêmement violence, pour arriver à créer, à se maintenir au niveau de la République démocratique du Congo. Ce qui est important, c'est de commencer d'abord à créer de passerelles, déjà, d'aide et d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, quand on revient au niveau du Congo, on est un petit peu, limite abandonné, parce que nous n'avons pas de structure qui nous accueille, nous n'avons pas de structure qui nous accompagne, nous n'avons pas de structure qui nous aide. Donc, limite, et nous n'avons pas non plus de réseau, parce que quand on vient, les Congolais, c'est des intelligents ou des intellectuels, mais qui ont du mal à deux fois créer des réseaux. Or, aujourd'hui, nous, au niveau du Congo, on aimerait, en aimant investir au Congo, déjà commencer par créer notre propre réseau, et essayer aussi de rivaliser avec d'autres entreprises qui viennent de l'extérieur. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est en termes d'accueil, en termes
de structures d'accompagnement
et c'est vraiment ça qui nous fait défaut, en fait. C'est vraiment ça qui nous fait défaut.
Bien, on va accueillir un auditeur de Kananga, Ben Mukadi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la contribution des Congolais de l'étranger dans la création des emplois au pays?
Ici, j'ai quelques remarques.
Lesquelles?
Remarquons que ces trois sortes de capitaux ou investissements sont tous productifs dans le sens général du terme, car sinon on parlerait d'épargne destinée à la consommation.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Monsieur Augustin Kitukila, alors vous êtes dans les secteurs de la protection de l'environnement. Dites-nous, vous avez déjà tenté d'investir au pays dans ces domaines-là. Qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement?
Au niveau du Congo, nous avons, il y a cela 5 ans, créé une structure à caractère social qui presse actuellement dans tout ce qui touche de l'assainissement écologique et dans la protection humide de l'environnement. Donc on est beaucoup plus aussi axé dans les énergies renouvelables. Nous avons à ces jours, construit plus de 300 toilettes écologiques avec un système de valorisation des déchets en fertilisant naturel. Donc nous avons plus de 30 déchets, 30 mètres cubes de déchets déjà transformés en fertilisant naturel. Nous avons produit du gaz méthane. Et là, nous sommes actuellement en train de, on a validé le concept, de notre production du gaz méthane. Maintenant, on est en train de passer à l'exploitation réelle et on est aussi en train de reboiser parce qu'on se rend compte qu'au niveau de la communauté, il y a beaucoup de déboisement et le reboisement ne se fait pas. Donc on s'est dit aujourd'hui, une grande partie de la population cuisine avec tout ce qui est charbon de bois, et qui dit charbon de bois dit déboisement. Donc il faudrait nécessairement penser aussi à reboiser. Nous, on est en train de reboiser et à planter aussi des arbres fruitiers au niveau de nos milieux ruraux, en fait. C'était ça.
Bien.
Donc actuellement, on est vraiment actif au niveau de certaines provinces et on est en train d'avancer pour, d'une, assainir le milieu, de deux, produire des énergies renouvelables.
Bien, Monsieur Papito Mwanda est également de la diaspora française. Il évolue dans les secteurs de l'informatique. Monsieur Papito, mais pourquoi les banques ne vous accordent pas des crédits? Il semble que il suffit d'être client. Vous ouvrez votre compte dans une banque et puis on voit comment évoluent vos activités et puis bon, vous faites la demande et ça marche.
En disant que le banque ne nous donne pas de crédit, c'est pas ça que j'ai dit. Et puis. Le banque, il donne des crédits, mais c'est les conditions d'accès à ces crédits-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on peut se permettre de se dire qu'on est éligible. Pourquoi? Parce qu'avec tous ces temps qu'on a passé et avec nos entrées qu'on arrive aujourd'hui à réaliser, on est éligible. Alors, il y a aussi, c'est question de culture aussi. C'est question de culture. Le Congolais ont perdu. Moi, quand j'entends souvent les gens disent que non, les Congolais n'ont pas la culture d'épargne. Non, les Congolais ont perdu leur culture d'épargne. Parce que nos parents, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il y avait des limaces, il y avait des coopératives limaces, de consorts. Donc, les gens épargnaient. Mais aujourd'hui, on épargne moins. Donc, les gens ont perdu la confiance à des banques parce qu'il y a eu des dévaluations de monnaie, les banques ont eu fait des faillites. Les gens ont peur. Les banques, ce qui fait que les gens ne mettent pas l'argent souvent à la banque. Alors, donc la banque est obligée de prêter des fois des ressources financières qui reprennent de l'extérieur. Et ce qui fait que les conditions sont devenues aussi beaucoup plus beaucoup plus rigoureuses. C'est-à-dire que quand il faut vous prêter, excusez-moi, je vous donne l'exemple, quand il faut prêter 1 000 $, vous devez déjà avoir sur votre compte 400 $. Vous voyez, vous avez besoin d'un prêt de 1 000 $, on vous dit vous devez avoir 40% sur votre compte. Et puis, on vous demande l'intérêt des 12. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui va avoir le marché, qui est pour la première fois. Donc, aujourd'hui, les banques acceptent moins de cautions de biens matériels. Donc, aujourd'hui, les cautions, il faut aussi avoir quelque part du cash, donc des espèces. Donc, voilà un peu, c'est cette difficulté là que les entreprises se retrouvent. Parce que souvent, vous faites une prestation, la plupart, quand on fait des prestations avec les entreprises publiques ou les entreprises ou l'État congolais. Vous savez, on a encore un problème avec l'État congolais, c'est le taux. Vous faites une prestation aujourd'hui, la stabilité de monnaie, vous faites une prestation aujourd'hui, vous serez payé 8 mois après et les coûts ne sont plus les mêmes. Vous voyez un peu, donc.
Huit mois après le service.
8 mois après le service.
Et pourquoi, tout ce temps-là?
Donc, c'est-à-dire que nous avons un problème aussi de coordination de l'État. Notre État, il a un sérieux problème de coordination. C'est-à-dire que quand il prévoit leur budget, quand il prévoit leur plan d'engagement, quand il prévoit leur plan d'exécution de cet engagement-là, il y a tout le temps des décalages. Donc, vous avez le budget qui est fait aujourd'hui. On a dit au mois de mars, nous allons exécuter une construction des XY. Donc, on lance les avis d'appel d'offres. On arrive au mois de mars qui était prévu, ce n'est pas fait. Et puis, on le fait au mois d'avril. Et au mois d'avril, la personne gagne le marché, le temps de le faire, les temps d'exécuter. Et puis, ils sont payés par le trésor public. Donc, il y a plusieurs ministres qui doivent signer. Il y a plusieurs signatures de ministres. Donc, vous voyez. Donc, si vous travaillez sur un secteur qui n'est pas de budget, qui n'a pas de finances, donc, c'est-à-dire que vous travaillez à l'EPSP. Donc, le ministre de l'EPSP doit faire le bon d'engagement pour qu'il aille au ministre du budget. Le ministre du budget doit faire la liquidation de cette bon pour que cela aille au ministre des Finances pour faire le paiement. Oui.
Ça, c'est tout un voyage.
Et ben, voilà. Donc, tous ces voyages-là, ça doit passer au point de XY administratif pour arriver à la Banque Centrale afin que vous soyez payé. Donc, tout ça, ce sont des étapes dans lesquelles ça peut prendre. Logiquement, les étapes de paiement au niveau des plans d'engagement, des plans de paiement de l'État, ils avaient dit il est réduit pour que ça fasse 4 phases. Les 4 phases-là, ça devait se faire normalement au moins 10 jours. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont attendu 1 année. Il y en a qui, même l'exercice est passé. Vous imaginez quand l'exercice est passé. Donc, il faut que tout ce qu'on avait fait cette année est annulé.
Donc, il faut reprendre le processus à zéro.
Il faut reprendre encore le processus à zéro. Vous voyez, tout ça,
Oui, bien sûr, bien entendu. Monsieur Papit, on va accueillir un auditeur, Samson, de Mbandaka. Bonjour. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la contribution de la diaspora dans la création de l'emploi dans le pays?
Monsieur le journaliste, je peux dire ceci. La création des entreprises de moyens et petits termes de diaspora peut amener au développement de notre pays. Il va lui permettre la diminuer le nombre de chômage, permettre aussi d'éradiquer la pauvreté et permettre aussi de diminuer la criminalité dans notre pays. C'est pourquoi je vais poser une question. Pourquoi l'État congolais interdit ça au moment où les taux de chômage et de pauvreté et criminalité augmentent chaque jour? C'est ça un peu la préoccupation.
Voilà, pourquoi l'État congolais n'offre pas les facilités aux Congolais de la diaspora? Monsieur Augustin Kitouki, là, vous avez la parole.
En fait, pour nous, c'est beaucoup plus à créer des passerelles. Aujourd'hui, nous savons que dans des pays développés, l'artisanat, c'est la première, en fait, c'est la première entreprise, en fait, qui recrute et limite. Aujourd'hui, pour éradiquer le chômage chez nous, il faudrait nécessairement promouvoir l'artisanat. Aujourd'hui, on ne veut pas que les Congolais, en finissant l'université, deviennent des chercheurs d'emploi. Il faudrait qu'ils soient plutôt des créateurs d'emplois. Pour que nous puissions assainir notre milieu professionnel ou milieu de travail, il faudrait nécessairement que nous puissions devenir des créateurs d'emplois. Et ça serait quelque chose de très bien. Et de deux, comment accompagner et aider? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'à créer l'entreprise, il n'y a pas qu'à créer des structures, mais comment les faire évoluer? Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on implore que notre pays puisse instaurer ou initier des actions pour accompagner les petites et les moyennes entreprises. Parce qu'on s'est dit que s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de passerelle au fait de formation et de renforcement de capacité, limite les entreprises seront vouées un petit peu à l'échec. Donc, limite pour nous, aujourd'hui, c'est vrai, la diaspora elle peut venir avec une forme d'expertise, mais s'il n'y a pas sur le terrain une forme d'accueil et d'accompagnement, je suppose que ça ne donnera pas des effets positifs. Donc limite pour nous, c'est une forme de synergie qui doit être créée entre ceux qui ramènent une forme d'expertise et ceux qui sont sur le terrain pour aussi essayer de les accueillir et de les accompagner. C'est plutôt ça qu'il faudrait, nécessairement.
Oui, je sais qu'à l'époque, il y avait un ministère de Congolais, au ministère des Affaires étrangères, une structure qui s'occupait des Congolais, de l'étranger, pour les aider à revenir au pays, à investir, tout ça. Bon, je ne sais pas si la structure existe toujours.
Je ne sais pas, moi non plus, mais par contre, c'est que je sais, beaucoup de Congolais ont des initiatives, ils ont des projets, ils ont des expertises énormes pour essayer d'accompagner notre pays, mais quand ils arrivent, ils sont bloqués parce que ils n'ont pas d'interlocuteur, d'une, de deux, peut-être pas d'interlocuteur, mais par contre, ils savent pas par où commencer. C'est ça déjà qui crée le problème, et de deux, en termes de soutien, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand vous débarquez au Congo, et quand vous n'avez pas de contacts, quand vous n'avez pas de réseau, sincèrement, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué, limite, ça décourage. Raison pour laquelle aujourd'hui, heureusement que Radio Capi est là pour relayer ces infos, parce que ça permet qu'il y ait une forme de prise de conscience, parce que aujourd'hui, il n'y a que nous-mêmes qui devrions nous battre pour reconstruire notre pays. Les coupes Congo sera reconstruit par les Congolais, en fait.
Augustin, pourquoi, comme il n'y a pas ces structures-là, bon, il ne faut pas se croiser les bras, pourquoi ne pas, par exemple, revenir au pays, voir le marché, découvrir, poser des questions pour découvrir les secteurs dans lesquels on peut investir, et puis, bon, voilà, vous repartez pour vous préparer et revenir.
Limite, aujourd'hui, quand on vient en prospection, déjà, on est découragé. Parce que quand on vient pour essayer de nouer de contact, limite on est découragé parce qu'on nous parle on nous met des murs, en fait, parce qu'on nous met des murs, et aujourd'hui les Congolais, c'est pas, je généralise pas, mais aujourd'hui vous savez comment fonctionnait notre administration, c'est-à-dire que c'était si compliqué parce que déjà d'une, on vous dit que vous n'avez pas assez de moyens, déjà pour quand on arrive, pour avoir déjà des informations, il faut avoir des moyens. Et limite, il faut aussi être encouragé. Parce que si on n'est pas encouragé, limite, on arrive à abandonner. Mais vous savez comment ça se passe chez nous. Vous allez prospecter, aller faire 200, 300, 400 kilomètres pour aller prospecter. Mais c'est les gens que vous allez rencontrer sur place qui vont réellement vous décourager. Donc pour nous, déjà, c'est des structures d'accueil. Le Congo est grand, le Congo est vaste. Mais limite, il faudrait nécessairement qu'on ait une flexibilité au niveau administratif. C'est-à-dire que si vous avez l'information et que vous allez au niveau de nos ministères, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas d'emblée, c'est vrai, je ne généralise pas, mais c'était compliqué. Compliqué parce que, d'une, on vous soumet à des protocoles qui sont, des fois, extrêmement difficiles à avaler, et pour nous, ça décourage. Beaucoup sont venus avec des idées, beaucoup sont venus avec, il y en a qui venaient avec des accessoires pour aller vendre au niveau du pays, mais regardez le prix de la douane. Regardez le prix de la douane. Imaginez-vous, il y a cela 10 ans, vous n'avez pas de véhicules catch qui rôdaient ici au niveau du Congo. C'était c'est la diaspora qui a envoyé tout ce qui est transport en commun. Mais limite aujourd'hui, c'est compliqué parce que quelqu'un qui vit en Allemagne, qui vit en Autriche, qui vit en Belgique, qui aimerait monter une petite affaire. Mais dès qu'il s'organise et arrive au niveau de nos ports et tout, mais limite au niveau de la facturation de douane, je vous dis, c'est extrême. C'est extrême. Comment faire? Donc aujourd'hui, le président de la République qui a fait effectuer des missions au niveau de la communauté européenne, qui a eu à échanger aussi avec une partie de la diaspora, je suppose que les Congolais ont réélevé leurs problèmes. Le président a été à l'écoute et qui a promis aussi de nous aider parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, nous avons besoin de revenir. Mais comment faire? Si on vient et qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien accueilli, on est découragé. L'Europe, c'est bien, on a été pour apprendre, on a été pour capitaliser en termes d'expérience. Mais là-bas, c'est pas chez nous. Chez nous, c'est le Congo. Il faudrait nécessairement qu'on y aille pour apprendre, mais revenir, au fait, aussi reconstruire notre pays. Donc c'était ça la difficulté. Aujourd'hui, revenir au Congo, c'est un combat. Il y en a qui sont venus, au bout de 3-4 mois, ils ont plié bagages parce qu'ils se sont dit, les choses qu'ils ont rencontrées, c'était inacceptable, et ils sont partis. Heureusement, nous existions parce qu'on a été aidés. On a eu des partenaires beaucoup plus solides à nous accompagner, mais sinon on allait abandonner et repartir. Donc aujourd'hui, j'ai lancé un appel à l'État congolais de nous donner de moyens, de nous écouter, de nous, disons, de créer des passerelles pour que les Congolais aujourd'hui puissent investir chez eux. Vous pouvez circuler dans la ville de la Gombe, là. Vous allez vous rendre compte que la plupart des entreprises qui existent ne sont pas des entreprises congolaises. Les Congolais n'existent pas. Les Congolais, limite même dans la sous-traitance, les Congolais n'existent pas. On nous les relègue au second rang. Nous n'avons pas d'aide. Aujourd'hui, on parle de financement. Allez dans une banque, chercher des fonds. On va vous demander des hypothèques. Qu'est-ce que nous avons à hypothéquer pour obtenir des subventions ou des crédits? Qu'est-ce qu'on a hypothéqué si on ramène 10 ou 20 000 dollars pour investir au Congo? Limite, c'est compliqué. Et nos banques qui sont ici ne sont pas non plus aussi ouvertes pour accompagner. Parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est des gros marchés, c'est pas les artisans.
Bien.
C'est pas des artisans.
Oui. On comprend qu'il faut aujourd'hui beaucoup à offrir des facilités aux Congolais et à l'étranger qui veulent revenir au pays investir. Monsieur Papito Mwanda, vous avez suivi les propos de Monsieur Augustin, donc c'est dans le même sens. Alors, quelles sont les facilités dont vous avez besoin aujourd'hui, disons, dont les Congolais et de la diaspora ont besoin pour revenir et investir dans le pays et créer des emplois?
Ok, merci beaucoup. Je peux pas faire, c'est pas ma chaîne que je veux faire, mais c'est juste compléter mon confrère, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je voulais dire à mon confrère que nous avons aussi une part de responsabilité, nous les diasporas. Vous savez, les réseaux que nous demandons qu'ils soient mis en place, nous pouvons aussi les mettre. C'est vrai que la radio Capi nous a permis aujourd'hui de se connaître, ça fait plaisir. Peut-être après, je vous laisserai mes adresses, comme ça on pourra s'échanger pour se voir. Nous, on a constitué un réseau. Nous avons constitué notre réseau et à tel point que certains amis qui sont en Europe, ils sont obligés directement de venir. Donc, ils peuvent travailler à travers nos réseaux. Il faut que nous nous organisons aussi, parce que nous allons souvent en solitaire. C'est-à-dire que nous allons souvent en solitaire, c'est ce qui nous affaiblit aussi. Hein, ce qui nous affaiblit aussi, ces problèmes-là. Donc, pour aller dans la question, nous avons besoin exactement de l'accompagnement de l'information. C'est-à-dire que l'État doit mettre en place. C'est vrai, l'État, c'est qui? C'est moi, c'est vous, c'est elle, parce qu'aujourd'hui, je ne me vante pas, mais je dis, quand je regarde tout autour des présidents, c'est le même confrère hier, qu'ils étaient de l'autre côté, qu'ils étaient avec nous là-bas. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de diriger. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même chose. C'est-à-dire qu'hier, on disait aux gens qui étaient là, ouvrez-nous des portes, faisons de la sorte qu'il y ait une communication. Mais aujourd'hui, on voit la même chose. C'est-à-dire que quelque part, les Congolais en soi, donc c'est-à-dire que les Congolais, je ne parle pas que de l'État, je parle les Congolais en soi, ils doivent ouvrir aussi leur esprit. Parce que quand vous connaissez pas quelqu'un, il faut pas directement dire que parce que je le connais pas et que je ne peux pas lui ouvrir une formation ou je peux pas le faire. Donc, c'est aussi quelque chose que nous, c'est ça. Donc, nous devons nous ouvrir aussi entre nous. Hein? Je tiens à dire que l'État a une part de responsabilité. Nous aussi, on a une part de responsabilité. C'est vrai que même ailleurs, là où on est, c'est pas tout le monde qui est appelé à être homme d'affaires, non. C'est pas tout le monde qui a les idées, qui fait des affaires non plus. C'est vrai que on a souvent cette tendance-là de dire, quand je viens de l'Europe, je viens dans notre pays, je dois nécessairement faire quelque chose comme activité commerciale, comme activité artisan. Non, on n'est pas obligé, on peut être employé. Donc l'expertise que nous venons avec, il n'est pas dit que nous devons être quasiment les créateurs d'emplois. On peut être aussi au service des autres. Donc, on peut aussi servir. Donc, moi, je trouve que l'État congolais, le ministère des Congolais pour les étrangers qui était mis, c'est vrai que c'était beaucoup plus politique. Moi, je le trouvais pas à sa place. Parce que aider les Congolais, ce n'est pas d'avoir un bureau en ville. Hein? Donc, aider les Congolais, il y a des diasporas qui sont rentrés, qui habitent Massina, qui habitent Kitambo, qui habitent Mongafou, là. Nécessairement, il ne doit pas venir en ville pour avoir l'information. Donc, on devait avoir quand même des représentations partout pour se dire que nous sommes là pour aider les diasporas congolais. Donc, l'État congolais doit mettre à notre disposition des outils, des réseaux, des institutions qui va permettre aux diasporas de pouvoir s'informer. Et nous, monsieur le diaspora, je lance aussi appel à nos frères, ne devons pas croiser des bras.
Vous devez travailler en réseau, comme vous l'avez dit.
On devons aussi travailler, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que nous devons travailler en réseau, nous devons aller voir nos confrères qui sont déjà venus avant, comme mon frère qui est là aujourd'hui, que je sais qu'il est dans l'environnement. Donc, ce qui veut dire que demain, si j'ai un autre frère qui arrive, grâce à Radio Capi, je vais dire, non, nous avons un frère tel qui est là, enfin, donc allez-y voir. Donc, nous sommes aussi appelés, nous, de s'organiser aussi, parce que vous regardez les Maliens, les Tout-Consorts, ils se sont d'abord organisés en Europe, hein. Ils ne sont pas organisés en Afrique. Ils sont organisés en Europe et puis ils sont venus en masse.
Monsieur Papito, déjà en Europe, on a appris que les Congolais ne sont pas tellement soudés. Chacun évolue dans son secteur, mais il semble que vous avez des regroupements avec les chefs, les représentants de tous les Congolais de la diaspora.
Nous avons un défaut. Moi, je dis toujours, nous, les Congolais, nous avons un défaut. Pourquoi? Parce que nous, les Congolais, on évolue toujours, comme on dit, entre guillemets, encore qu'on saute, on devient intégriste, c'est-à-dire qu'il est devenu blanc, soit il est resté congolais dans le milieu des musiques. Mais regardez même les gens du milieu des musiques, hein, ils sont beaucoup plus organisés, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un concert, vous allez voir qu'il y a du monde, il y a tout ça, il y a des publics qui vont se faire. Mais nous, les intellectuels congolais qui sont à l'étranger, on a un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment, je dis pas que ça n'existait pas, mais on n'en a pas vraiment. On n'a pas vraiment de groupe de Congolais qui sont là, qu'on sait que quand la France, je peux même dire ceux qui sont en France, si aujourd'hui la France dit « Ok, je vais donner l'opportunité aux Congolais qui sont ici, le moyen d'aller investir au Congo », bah, il faut les trouver. Il faut les trouver. On ne crée pas aussi des auras là où on est. Je pense que mon frère, c'est ce que je parle, nous avons aussi une part de responsabilité. C'est comme ça que je dis, l'État que nous regardons derrière, l'État c'est moi, c'est lui. Mon frère, avec toute l'expertise qu'il a, demain il peut être appelé d'être ministre. Il faut qu'il mette ça en place. Donc, c'est-à-dire que quand il va arriver, il a besoin de réseau aussi. Donc, je pense que on a une part de responsabilité, nous aussi.
D'accord.
Mais D'accord.
Monsieur Augustin Kitukila, je reviens à vous. Vous êtes également de la diaspora de la France. Vous évoluez dans les secteurs de l'environnement. Vous avez dit tout à l'heure que si pour permettre aux Congolais de venir investir au pays et créer de l'emploi, il faut assainir le climat des affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire exactement pour vous permettre de vous sentir à l'aise?
Aujourd'hui déjà, je crois que il y a des efforts qui sont faits, limite avec nos amis qui sont au niveau de la cellule du climat des affaires, mais je crois qu'il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, limite à créer, comme je disais, à créer des passerelles. Aujourd'hui, à organiser des rencontres déjà, parce que limite on sait la base, comme a dit mon frère, de l'autre côté, c'était beaucoup plus l'information. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en termes de communication, c'est limite. Aujourd'hui, on vient, si j'ai besoin d'aller dans un ministère pour avoir des informations, c'est des fois opaque, au fait. Donc, aujourd'hui, rentrer dans des sites de nos ministères, vous allez voir qu'en termes de communication, des fois, c'est pas top, au fait. Donc, aujourd'hui, c'est déjà la gestion de l'information, comme il l'a dit. De deux, nous avons besoin d'être en contact avec nos dirigeants. Nous avons besoin d'être en contact avec les gens qui nous gouvernent. On a besoin aujourd'hui d'échanger. On a besoin de proposer. On a besoin des ateliers, des conférences. L'ami a parlé de la France aujourd'hui. Regardez au niveau de la Belgique. Il y a des ateliers qui s'organisent. Il y a des séminaires qui se font où on appelle on a parlé des Maliens, de Gilles. Les Congolais sont aussi organisés. Il ne faudrait pas caricaturer les Congolais de l'étranger. Surtout ceux qui sont ils sont organisés. C'est parce qu'ils ne sont pas extrêmement visibles. C'est beaucoup plus des gens qui sont dans des combats limite exhibitionnistes qu'on voit à la télé, dans des réseaux sociaux. Mais il y a des lobbies congolais qui travaillent. Vous allez aller en Allemagne, vous avez des groupes d'ingénieurs congolais qui sont en Allemagne, qui sont à Stuttgart, qui sont à Munich, qui travaillent.
Il n'y a, pas que les combattants qui attendent les autorités pour les tabasser.
Les combattants, c'est un mouvement, c'est des mouvements de masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas, parce qu'ils ont des objectifs, ils ont une vision, ils sont dans un combat. Je ne peux pas aujourd'hui les caricaturer ou les cataloguer. Ils sont dans un combat, ils sont civils aussi, malgré des fois qu'il y a des dérives. Mais je ne dis juste une chose, nous sommes tous des Congolais. Les Congolais, on croit que les Congolais n'est pas organisés, ou les Congolais de l'étranger ne sont pas organisés. Non, ils sont organisés. Vous avez des groupes d'étudiants congolais qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont en Angleterre. Les Congolais ont aussi des petits réseaux à l'étranger. Aujourd'hui, c'est qui nous ont accueillis quand on était partis? C'était que des Congolais. qui nous ont aidés à s'intégrer. C'était que des Congolais. Moi, j'ai pas été intégré par un Malien. J'ai pas été intégré par aidé à l'intégration par un Sénégalais. C'est des groupes de Congolais qui nous ont aidés, qui nous ont orientés. Même au niveau de nos facs là-bas, de l'autre côté. Quand on est dans une faculté, les Congolais nous aident. Les Congolais sont solidaires. Mais ce qui est difficile, c'est que il y a plus de synchronisation entre ceux qui sont à l'étranger et le pouvoir en place ici. C'est-à-dire que c'est ce qui déplore les Congolais. Nous avons besoin de nous sentir chez nous quand on vient au Congo. Nous avons besoin d'être acceptés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui sont ici. Nous avons de la compétence aussi ici sur place, qui n'ont peut-être pas été à l'étranger, mais qui excellent dans plusieurs domaines. Nous avons besoin de cette synergie. Nous avons besoin d'être un pour faire avancer les choses au Congo.
Augustin, donc, oui, je comprends. Pour récapituler, vous avez dit il faut organiser des rencontres d'information, avoir les facilités d'entrer en contact avec les autorités du pays, organiser des ateliers, des conférences. Quoi d'autre?
À part les conférences, il faudrait mettre aussi des structures d'accompagnement. J'ai entendu il y a deux semaines que le président de la République était en train de créer une organisation d'aide à l'investissement.
À l'investissement, donc, oui.
Oui, c'est des idées comme ça qu'on veut, nous. C'est des structures comme ça qu'on veut. Aujourd'hui, on a parlé de l'IFP. Donc, c'est l'IFP, je crois. L'IFP, je crois. Ça doit être le FPI, excusez-moi.
D'accord, le Fonds de promotion industrielle.
Oui. Le fonds de promotion industrielle, c'est-à-dire le FPI, excusez-moi, parce que j'ai tellement été dans le pétrole, donc l'IFP, c'est l'Institut français du pétrole, là où on a eu à capitaliser.
Voilà, le fonds de promotion pour l'industrie.
Pour l'industrie, donc j'ai dû confondre un peu, donc le fonds de promotion pour l'industrie. Donc on a des structures qui existent, il faudrait nécessairement qu'elles soient actives, extrêmement actives. Il faudrait nécessairement que nous ayons des structures d'accompagnement. Que nous ayons des structures d'accueil. Parce qu'aujourd'hui, limite, vous avez parlé au niveau du ministère des Affaires étrangères qui a accueilli les Congolais. Mais sincèrement, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours entendu parler, mais je ne sais pas au niveau du fond.
Nous avons aussi les guichets uniques de création d'entreprise qui vous aident à créer rapidement vos structures en peu de temps.
Oui, on salue parce qu'on est passé par là. C'est en trois semaines, on a eu tous nos documents et je salue cette structure. Et pour nous, c'est que aujourd'hui, nous avons besoin qu'il y ait plusieurs structures. Que ça soit pas que d'une manière isolée, qu'il y ait plusieurs structures. Que ça soit en termes organisationnels, que ça soit en termes administratifs, que ça soit en termes d'accompagnement, de formation, de renforcement de capacités. Parce que les Congolais ont besoin de travailler en synergie. Nous avons besoin de passerelles. Quand on dit passerelles, nous avons réellement besoin de petites institutions qui soient stables et qui aident réellement les Congolais. Il y a que ça.
Bien, merci. Augustin Kitukila, je rappelle que vous êtes de la diaspora française, vous évoluez dans les secteurs de la protection de l'environnement. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, merci.
Bien, Monsieur Papito Mwanda, on va conclure également avec vous. Vous êtes dans les secteurs de l'informatique, vous êtes de la diaspora en France. Vous avez suivi les propositions de Monsieur Augustin pour aider les Congolais à créer de l'emploi, à investir et à créer de l'emploi. Vous avez suivi les chefs de l'État même créer une structure qui est chargée de l'investissement. Qu'est-ce que vous avez à dire, Papito?
En tout cas, merci beaucoup pour notre ami... et qui a intervenu, il a totalement raison. Il faut créer des passerelles, il faut créer tout ça, mais j'ai toujours dit, moi, l'avantage que j'ai ici dans ces pays, parce que j'ai passé quand même dans notre pays, je suis revenu, j'ai passé 12 ans. Sur les 12 ans, il y a aussi, nous ne devons pas rester dans le se dire, l'État doit mettre en place, nous devons savoir aussi que l'État doit trouver aussi des moyens pour mettre ça en place. Ce qui veut dire que nous aussi, nous devons nous organiser pour essayer de booster certaines choses pour émerger aussi. Je voyais à l'étranger, vous allez vous rendre compte que le crédit, c'est pas aussi facile. Hein. Monter aussi une activité, c'est pas aussi facile. Je comprends nos confrères, quand ils viennent, ils ont une autre vision aussi parce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a aussi de part et d'autre de responsabilité. Donc l'État ne doit pas tout dire qu'il doit faire parce qu'il y a aussi question des moyens, il y a aussi question de disponibilité. Nous sommes déjà dans un pays où on n'arrive pas à produire. Donc créer des structures, plusieurs structures, ça fait alourdir le portefeuille de l'État. Donc nous devons essayer de trouver le juste milieu pour essayer de démarrer quelque chose. Donc voilà un peu ce que je peux comprendre.
Bien, Papito Mwanda, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes Congolais de la diaspora française. Vous évoluez dans l'informatique. Excellente journée.
Merci à vous. Au revoir.
Et oui, fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève le magazine Okapi Service, consacré à la contribution de la diaspora congolaise dans la création des emplois en RDC. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. La deuxième partie de cette émission, restez avec nous.